Bonsoir, c'est le moment des amis d'Orwell.
War is peace. Freedom is slavery.
Cette semaine, mobilisation générale contre le salon Millepol, le marché de la répression et du contrôle avec des représentants de la coalition Guerre à la guerre autour du dernier film de Mathieu Rigouste, Nous sommes des champs de bataille.
C'était la patrouille de police qui fouinait en regardant à travers les fenêtres des
champs. Did not matter, however.
Seul comptait
Only the thought police matter.
La police de la pensée.
Autour de la planète, ces technologies servent principalement à surveiller, réprimer et faire la guerre à des populations civiles.
Bonjour madame.
Je suis du ministère de l'Intérieur.
D'accord.
Voilà, il y a énormément de délégations étrangères qui viennent pour voir différents stands, celui du ministère, mais aussi d'autres stands. Et comme on est co-organisateur, c'est eux qui organisent les déambulations des délégations. Ouais.
Okay. Et Millepol permet d'amorcer des constats, par exemple ?
Alors ça, je ne saurais pas le dire parce que moi, je ne suis pas sur le côté vente, etc. Mais c'est un salon pour les professionnels. Donc, c'est forcément un salon qui a un objectif commercial pour les... Vous voyez, il y a beaucoup d'exposants qui sont des privés, qui oui. exposent, voilà, donc ils sont là à des fins commerciales. Mais oui, forcément, c'est un salon professionnel. C'est forcément soit créer des partenariats, soit conclure des contrats, évidemment. Hein. Mais si vous repassez, on vous recevra avec plaisir. Et vraiment, envoyez-nous vos questions, il n'y a aucun problème.
En plein centre de Millepol se tient le J4. C'est le lobby des industriels de la défense et de la sécurité. Son président dirige aussi Thales, qui vend des armes de guerre et des technologies de surveillance dans le monde entier. Le J4 regroupe 300 entreprises, dont des géants comme Airbus, Atos, IDEMIA, Thales ou Orange, réalisant plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Le J4 possède et organise plusieurs salons internationaux comme Eurosatory, le plus grand au monde, mais aussi Expo Defensa à Bogota en Colombie ou Shield Africa à Abidjan en Côte d'Ivoire. J'ai pu m'entretenir avec l'un de ses dirigeants, un ancien préfet. C'est presque le boss final.
Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Gérard Lacroix, délégué général adjoint du J4 en charge du volet sécurité. Au J4, il y a deux volets. Il y a un volet défense, armée de terre et un volet sécurité. Moi, j'ai en charge le volet sécurité. C'est à ce titre-là, d'ailleurs, qu'on se rencontre sur le salon Millepol. En clair, la sécurité, depuis la vague d'attentats de 2015, a pris une part extrêmement importante dans nos réflexions et dans le nombre de nos adhérents et dans leur production technologique et leur savoir-faire. La technologie française dans le domaine de la sécurité, certainement la meilleure du monde. Les drones, anti-drone, tout petit drone, gros drone, le drone qui emporte des caméras, le drone qui... On a toute la palette. Drone, anti-drone. Ça marche très très bien. Ce qui est important, c'est que la filière sécurité, les entreprises de sécurité du J4 gagnent leur vie en exportant. C'est pas tant le marché national qui les fait vivre. Même si la gendarmerie, la police, la sécurité civile passent des contrats. C'est pas ça qui fait vivre. C'est surtout ce qui assure l'essor de cette filière, c'est sa valeur à l'export.
Là, il vient nous donner une clé. Pour faire un maximum de profit, les industriels collaborent avec l'État pour lui fourguer leurs marchandises. Ces contrats les aident ensuite à vendre leurs produits dans le monde entier. Mais dans l'univers de la défense et de la sécurité, personne ne parle jamais de l'impact de ces technologies. Les drones, par exemple. Dans leur version policière, certains sont des outils de surveillance de masse pour briser toute révolte ou réprimer des exilés au profit de la forteresse Europe. Dans leur version de combat, ils permettent de bombarder, notamment des civils, comme à Fata Wada au Mali, où dans le cadre de l'opération Barkhane en 2020, un drone français a assassiné entre 12 et 30 personnes en frappant un rassemblement sous prétexte d'antiterrorisme. Et tout ça pour la sécurité des Français.
À ce titre-là, dans le domaine de la sécurité, nous avons un partenariat très fort avec la Gendarmerie nationale, qui est au sein du ministère de la Défense, certainement la direction qui est la plus innovante, qui a pris le train d'innovation il y a déjà 10 ans et qui réalise dans sa réflexion, dans la conception des matériels que nous faisons avec elle, dans leur utilisation, une démarche assez exceptionnelle, assez exceptionnelle. Donc toutes les entreprises qui travaillent pour la gendarmerie dans le domaine de l'innovation s'en sortent. C'est un allié très puissant. Nous avons des relations vraiment amicales avec les officiers de programme, avec le directeur général lui-même et son cabinet. Et on échange énormément, industriels d'un côté, officiers de gendarmerie de l'autre, et dans le cadre aussi du dossier des Jeux Olympiques.
Est-ce qu'il y a un concept équivalent à Combat Proven pour la sécurité intérieure ? Je veux dire, est-ce que l'utilisation de certains matériels en sécurité intérieure permet d'ouvrir des marchés à l'export ?
Oui. À partir du moment où ces matériels, on les estampille, validés par le ministère de l'Intérieur, etc., ça aide. Maintenant, je ne suis pas totalement enthousiaste dans ma réponse parce qu'il y a des freins qui subsistent dans le cadre du maintien de l'ordre. Ce qu'on appelle en France la gestion démocratique des foules. Maintien de l'ordre, ça fait, bon, peut-être un peu dépassé, mais enfin, avec le terme exact, politiquement correct pour vos auditeurs ou spectateurs, c'est gestion démocratique des foules.
Vous avez confiance dans l'avenir pour le secteur ?
Ah oui. Oui.
Voilà, c'était pour planter le décor. Donc, on vient de diffuser un premier extrait du film de Mathieu Régouste. Nous sommes des champs de bataille, fruit de plusieurs années d'infiltration et d'enquête critique sur le marché des armes sécuritaires. Alors, il a été diffusé la semaine dernière au CICP au moment de la tenue de ce salon Millipol et la veille d'un rassemblement qui a eu lieu devant le hall 5 du parc des expositions de Villepinte. Alors, les opposants se sont fait ensuite refouler vers la sortie du RER, mais il y avait beaucoup de monde pour rappeler la présence d'entreprises israéliennes impliquées dans le génocide en cours en Palestine, mais aussi pour pointer du doigt les entreprises militaires des Émirats Arabes Unis qui alimentent la guerre civile en cours au Soudan. Une mobilisation organisée dans le cadre de la coalition Guerre à la guerre, qui s'était déjà mobilisée en juin dernier contre la tenue du salon du Bourget. Parce qu'en France, vous le savez, on est des grands spécialistes de ces grandes messes commerciales des marchands de mort. Il y a Euronaval, Eurosatory, le salon du Bourget donc, et tous les deux ans, Millipol. Alors, c'est toujours le même aéropage de toutes les technologies d'armes, soi-disant non létales, comme des outils de surveillance et de contrôle. Ça va des drones furtifs aux algorithmes de reconnaissance faciale. Et d'ailleurs, tous les fabricants français qui participent à l'armement de la police, pour le maintien de l'ordre, pardon, pour la gestion démocratique des foules, bref, toute la fine fleur de cette industrie est présente tous les deux ans à Millipol. Alors, on a sous les yeux la dernière brochure du collectif Désarmons-les qui participe à la coalition Guerre à la guerre. Et en page 4 de leur dernière brochure sur les armements du maintien de l'ordre, il y a une liste d'entreprises, une vingtaine d'entreprises qui ont toutes, j'ai pu vérifier, leur petit stand à Millipol. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Alcetex, dont on parlait tout à l'heure, Mathieu. Donc, Else Tex, donc, c'est le spécialiste avec Nobel Sécurité, des grenades lacrymogènes, grenades assourdissantes, également d'autres munitions pour LBD. Il y a également Sofram, qui est une société de l'Est de la France, Sofram qui fabrique les fameux blindés Centaure, qui ont fait fureur en 2023 et l'an dernier en Kanaki. Il y a aussi TR Equipment, ça c'est une boîte plus discrète. Ils ont mis au point une espèce de batterie de lance-grenade. C'est 3 ou 4 canons qu'on peut empiler pour en une seule salve envoyer 12 ou 16 grenades lacrymogènes. Et cette boîte a aussi fait ses premières armes en Kanaki l'an dernier. Et puis il y a aussi un vénérable fabricant d'armes de Saint-Étienne qui s'appelle Vernet Caron, c'est l'inventeur du Flashball. Alors, ils sont fait un petit peu doubler il y a quelques années avec l'apparition du LBD. Mais Vernet Caron se diversifie évidemment puisqu'ils détiennent la marque Lebel qui a sorti l'an dernier un fusil à deux canons pour canarder les manifestants et manifestantes. Justement, Lebel, il en est question dans le film de Rigouste. Voilà comment le commercial nous vend sa quincaillerie. Et juste après ce nouvel extrait, on entendra Mathieu nous parler plus longuement du film, comment il l'a pensé, comment il l'a construit. Et après cette séquence, on passera des interventions du collectif membre de la coalition Guerre à la Guerre.
Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous présenter la firme ?
Bonjour, Pierre Coquelin, je suis directeur de la Business Unit Sécurité et Défense chez Vernet Caron. On a eu Vernet Caron donc 201 ans l'année dernière, société qui est bien connue historiquement par les amateurs d'armes en France. On en a profité de ce salon qui s'est très bien passé pour lancer une nouvelle marque, la marque Lebel, qui est en fait pour nous une garantie et un gage de toujours pousser plus loin notre volonté d'équiper les forces et les tireurs sportifs. Avec des armes aujourd'hui qui vont couvrir à la fois les fusils d'assaut ou de précision au travers de nos VCD-15 et VCD-10, mais aussi notre gamme de produits non létaux comme le flashball et les lanceurs de LBD 40 par 46 et 56 mm. Et enfin, le trait d'union parfait avec nos activités historiques de la chasse, tout ce qui est calibre 12, fusil à pompe, fusil ou semi-automatique. Clairement, la nouvelle marque va nous permettre de communiquer d'une façon directe vers les troupes, vers les utilisateurs de ces armes, en fait, qu'il s'agisse de policiers, de militaires ou de tireurs civils sur certains produits. Nos clients principaux restent toujours les polices municipales en France, sur toute la partie à létalité réduite, et vont être aussi à l'export, notamment l'Indonésie, la gendarmerie du Cameroun, par exemple.
Avoir un client français comme les polices municipales, c'est intéressant pour l'export ?
Oui, tout à fait. Le savoir-faire policier français, soit au niveau des forces nationales ou au niveau de la municipale, des municipalités, pardon, est très coté à l'international. C'est une véritable référence. Et après, on s'inscrit aussi dans un deuxième temps sur un schéma plus simple. Il est plus facile d'exporter si on a déjà rayonné dans son pays. Ça se comprend assez facilement. Le lancement de la marque Lebel le prouve, hein, on investit dans le futur. C'est aussi la volonté pour la famille Vernet, enfin pour la société Vernet Caron, pardon, de se projeter plus fermement, plus solidement sur quelque chose d'autre que la chasse, et donc de trouver comme ça d'autres relais de croissance et d'avoir aussi des cycles de marché qui vont se compléter. Pardon.
Et vous êtes proactif, vous allez au devant de.
On va au devant en proposant au travers des idées qu'on peut avoir. Et de ce que peut nous sortir notre unité de recherche et développement, on va au-devant des unités, on leur propose des concepts, etc. Ou alors, des fois, eux, nous connaissant, nous viennent en nous disant « On sait que vous avez fait ça, est-ce que vous pourriez nous faire tel type d'arme ?» C'est vraiment, on va dire, à double sens.
Alors qu'elles prétendent remplacer l'usage des armes à feu, les armes dites intermédiaires s'y ajoutent. Elles banalisent même le fait de tirer, et tuent aussi. Elles font exploser le nombre de blessures et de mutilations depuis leur dotation dans la police des quartiers puis des manifestations.
Est-ce que j'ai été emmerdé depuis le film ? En vrai, pas tellement. J'ai pris des coups de pression un peu pendant que je filmais dans le dernier des Millipol parce que je suis rentré en, Je suis entré en 2017, en 2019 et en 2023. Et à chaque fois, j'ai essayé d'y passer les 4 jours du matin au soir. À... Parce que du coup, vous ne voyez pas, mais il y a quand même plein d'entretiens qu'on m'a refusés. Évidemment, quoi. Et ouais, à la fin du 4e jour de 2023, il y a des... Il y a des gens qui sont venus prendre en photo mon véhicule, on m'a poursuivi à l'intérieur en mode « mais vous n'êtes pas un vrai journaliste ?» C'est comme ça, quoi. J'étais là « laissez-moi ». Et bref, voilà. Mais il y avait vraiment un risque qu'il y ait des procédures Bayon, quoi, des procès intentés. En fait, les industriels de l'armement, ils ont des cabinets d'avocats juste pour ça, faire des procès sur lesquels, même s'ils perdent, ils s'en foutent. Toi, t'as perdu du temps, de l'énergie, de l'argent. Pour l'instant, il n'y a rien eu. Je ne sais pas comment l'expliquer, si ce n'est que, je ne sais pas, le film, il est autoproduit, autodiffusé, autodistribué. Il existe dans des lieux autonomes. Moi, la seule explication que j'ai sur ça, c'est que... Bon, enfin, déjà, quand même, je les filme en face caméra. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas, quoi. Ils pourraient attaquer pour diffamation, quoi. Mais voilà, moi, je pense qu'ils ne le font pas parce que parce que l'objet, il est périphérique et il est porté dans les marges sur un terrain underground, quoi, et que voilà, quoi, qu'on est même pas dans leur monde en vérité, quoi, quelque chose comme ça, quoi. Ça a ouvert ce matin là, le salon Millipol, et comme j'avais réessayé d'avoir des accréditations et qu'ils me les avaient refusées, j'ai pu vérifier ce matin qu'effectivement ils m'ont dit non, vous êtes sur une liste, on veut plus de vous et tout. Et voilà. Mais je suis rentré quand même.
C'est avec ton vrai nom et tout, quoi.
Ouais, c'est avec mon vrai nom, mais parce que je fais de la recherche, mais je fais aussi du journalisme d'investigation. Il y a plein de moments où la recherche critique et le journalisme d'investigation, c'est un peu la même chose, quoi. Et du coup, je publie dans des journaux, etc. Donc, il y a des journaux qui peuvent me faire des lettres, des ordres de mission, quoi. Mais en vrai, ça suffit pas. Et ça, c'est un peu intéressant aussi, parce que c'est quand même enfin voilà, le salon Millipol, c'est un truc, c'est payé, enfin c'est sous l'égide du ministère de l'Intérieur. C'est financé avec l'argent public. Vous savez que l'argent public, qu'il n'y a plus pour l'éducation, pour tout ça. Pour la santé, pour la culture, voilà. Là, il y en a plein. Et du coup, en tant que journaliste, ils décident qui a le droit de rentrer, etc. Voilà. Bon, déjà, vous avez vu, j'ai mis un costume, déjà. A priori, ça se voit que je ne sais pas bien le faire, mais une fois que tu as l'accréditation, en fait, tu passes quand même les premières lignes de contrôle. Et du coup, une fois que tu es dedans avec ton accréditation, quand on te scanne, ça dit journaliste accrédité, quoi. Donc là, ça passe. Et moi, à partir de ça, j'allais directement au contact des industriels, quoi. Comme ça fait quand même une vingtaine d'années que je bosse dessus, je maîtrise leur langue, par contre, quoi. Et donc, en leur parlant leur langue et en les amenant sur des trucs d'abord qui peuvent les intéresser, et aussi parce que en fait, ils ont l'habitude, eux, de bosser avec des journalistes qui leur déroulent le tapis rouge, quoi, et qui ne font pas du journalisme, mais qui font de la communication, quoi. Mais la plupart des gens qui rentrent là-dedans ne sont pas des gens qui vont les gêner, en vérité, quoi. Et pourtant, il y a quand même des entreprises qui veulent aucun... Là encore, déjà plusieurs salons, mais là encore aujourd'hui, par exemple, Alcetex, ils ont mis des panneaux, genre pas de journalistes, pas de photos, il n'y a personne qui a le droit d'approcher. Alcetex, c'est ceux qui font les grenades de désencerclement et lacrymo, quoi, qui font du profit sur intoxiquer les manifs, les quartiers, les prisons, les exilés, etc., quoi. Je les déclenchais sur des trucs comme ça, en mode bonjour. Avec la rédaction, on est en train de se demander si on va pas pouvoir mettre la focale sur une des meilleures entreprises françaises qui a réussi à rebondir après la crise Covid. Est-ce qu'on pourrait parler de votre secteur recherche et développement et savoir où vous en êtes en termes d'innovation, machin, nan, nan. Et donc ça, en gros, ils se mettent à parler. Du coup, là, je sors la caméra, etc. Et après, il y a un truc de les amener petit à petit sur des terrains qui sont moins évident pour eux, quoi. Mais j'ai menti à personne. le film, il n'était pas du tout écrit. Enfin, il y a eu un moment, j'ai essayé de l'écrire pour essayer d'aller gratter des sous au CNC. Et quand ils m'ont tège, du coup, ça a fait. J'ai pas eu de sous. Mais ça avait fait quand même un moment où il a fallu réfléchir à le mettre en récit, quoi. Les films ou les bouquins ou les podcasts, enfin tous les trucs que je fais, je me fais accompagner par mes camarades et régulièrement tout au long, on fait des moments de discussion et des camarades, mais aussi des personnes par exemple qui connaissent rien au sujet ou ma grand-mère ou tu vois, genre vraiment sur un mode vas-y, est-ce qu'on comprend là où ça va, est-ce que ça a un intérêt pour les luttes, est-ce que c'est pertinent, est-ce que ça fonctionne, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Et du coup, le film, il a évolué comme ça, quoi. C'est-à-dire, j'avais les. Après le Millipol de 2023, j'avais cette matière un peu folle là, de ces entretiens avec les industriels. Et du coup, bah, il fallait en faire quelque chose. Quoi. Et ils se posaient la question de... En fait, si tu montes que eux... Parce que, par exemple, les institutions qui ont un peu des sous dans le cinéma, elles disaient, oui, nous, ça pourrait nous intéresser, mais s'il n'y a que le salon. Et tu vois, s'il y a le film avec que le salon, tu deviens fou. Quoi. Et puis en plus, c'est leur servir aussi un peu le tapis rouge, parce que même si je les amène sur des terrains glissants, il y a quand même des trucs qu'ils ne racontent pas. Quoi. Donc on s'est dit ça, on s'est dit que déjà, il faut une voix off pour les confronter, raconter tout ce qu'ils ne disent pas. Et alors que moi, au début, je ne préférais pas mettre de voix off, parce que bah, c'est se mettre en danger un peu, tu vois. Et après, il y avait eu aussi le truc, là, la réflexion sur le rapport à la caméra, comme le rapport aux sciences sociales, qui est le sujet, qui est l'objet. Où du coup, là, on s'est dit aussi d'une manière de... On n'en devient pas moins inégaux, on est absolument inégaux dans cette société et autour d'une caméra et autour d'un micro et autour de tout ce qu'on veut. Mais on s'est dit que quand même, ce qui pouvait être intéressant, c'était que justement, je passe aussi de l'autre côté, qu'on me voit un peu, que je me raconte un peu, et qu'on voit la relation qu'on avait aussi avec les camarades. Et puis en fait, bon, et d'abord ça, ça a été aussi de... ça c'était évident dès le début qu'il ne fallait pas proposer à trois universitaires en mode neutre qui feraient une analyse surplombante et tout, mais qu'il fallait que ce soit des militants, des militantes de terrain quoi. Et du coup à la fois des militantes mais aussi des personnes qui vivent les violences sécuritaires dans leur chair, dans leur histoire, dans leur famille, dans leur parcours et tout. Là franchement ça a été assez évident parce que dans le réseau d'entraide vérité et justice on se côtoyait tout le temps quoi, avec Fatou et Faïma. Et du coup, bah pareil, on réfléchissait ensemble. Je savais très bien qu'en leur tendant le micro sur ces trucs-là, elles allaient dire des trucs de fou, quoi. Et voilà, quoi. Et après, le truc s'est tissé un peu comme ça. Comme c'est moi qui faisais le montage, c'est pareil. Comme t'as pas, tu dois pas enfermer. Comme tu payes pas quelqu'un, t'as pas 10 jours en salle de montage où il faut que ce soit fait. En fait, ça a pris un an et demi. Tu le vois, tu le remontres à d'autres camarades, tu le remontes à d'autres gens. On change, on retouche, on s'en fout, quoi. Et c'est la liberté qui va avec le fait qu'on disait au début, on est précaire, mais on fait ce qu'on veut. Quoi. Et voilà, du coup, le film, il a été, je sais pas comment dire, tu vois, il a été fabriqué un peu comme ça tout au long. Quoi. Si vous voulez que ce film il circule, qu'il existe et qu'il serve aux luttes, vous pouvez transmettre le lien. Il est sur une plateforme, nous sommes des champs de bataille.net, avec des sous-titres allemand, espagnol, anglais, pour l'instant. Et dessus, il est à prix libre. Ça veut dire que ça permet la gratuité pour les gens qui n'ont pas de moyens. Et je redis aussi en même temps, il y a une caisse de prix libre qui tourne et dont les sous servent à soutenir les réprimés de la campagne Guerre à la guerre.
Voilà, donc, nous sommes des champs de bataille, je rappelle, c'est le titre du film. À retrouver, soutenir et partager sur le site de Mathieu Régouste. Une projection débat était donc organisée la semaine dernière pendant la tenue du Salon Millipol. C'était aussi l'occasion de parler de la manifestation de mars 2023 à Sainte-Soline, où les armes dont il est question ont blessé, vous le savez, des centaines de personnes. Et quelques jours après la publication dans la presse des conversations jubilatoires, des gendarmes mobiles se réjouissant de tirer dans le tas pour casser du manifestant. Tout de suite donc, les interventions de délégués des soulèvements de la terre et d'urgence Palestine.
Moi, je fais partie d'une organisation sur le terrain plutôt de l'écologie politique, donc qui sont les soulèvements de la terre, et qui se sont un peu fait connaître nationalement, notamment à l'occasion de la mobilisation contre la bassine de Sainte-Soline le 25 mars 2023, donc qui a eu un retentissement médiatique assez fort et qui, paradoxalement, a été un moment de renforcement politique en fait, des soulèvements et qui nous a fait grossir, qui nous a fait nous renforcer et notamment avoir beaucoup de soutien et avoir beaucoup de comités locaux. Donc en fait, la répression a aussi paradoxalement été un moment qui nous a renforcés politiquement. Et du coup, là, il y avait des camarades qui devaient venir parler, des camarades de blessés à Sainte-Soline, mais qui ne pouvaient pas venir ce soir. Mais juste pour rappel, la mobilisation, la répression à Sainte-Soline, ça a été 3000 policiers, dont 1500 qui étaient positionnés autour d'un chantier de bassine, donc c'était vraiment un trou, donc ils défendaient un trou, et qui ont tiré 5000 grenades en un peu moins d'une heure. Donc je crois qu'en gros, si on fait les calculs, ça fait à peu près une grenade toutes les 5 secondes. Donc il y a sans doute certains d'entre vous et certaines qui étaient là, enfin voilà, se figurer une grenade, une détonation toutes les 5 secondes. Donc c'était LBD, grenade désencerclante, grenade assourdissante et beaucoup de grenades lacrymogènes qui étaient tirées en tir tendu, quoi. Normalement, les grenades, elles doivent être tirées de façon réglementaire en cloche comme ça pour exploser en l'air. Et là, elles étaient tirées en tir tendu. Donc du coup, elles explosent sur les corps. Et donc ça, il y a eu 400 blessés, donc 40 blessés graves et 4 notamment les plus graves, dont 2 qui ont été entre la vie et la mort pendant plusieurs semaines. Et donc là, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a eu une séquence médiatique à nouveau, puisque donc, du coup, ces 4 personnes avaient porté plainte. Donc l'IGGN a mené son enquête en interne et cette enquête était en train de donner lieu à un non-lieu. Alors même qu'ils avaient accès aux vidéos qui ont été rendues publiques par Mediapart et Libération. Donc c'est-à-dire que ces vidéos que vous avez sans doute vues, dans lesquelles on voit des policiers qui en fait se réjouissent de blesser des chairs, qui disent ouvertement qu'il faut les buter pour calmer les autres, y compris les enfants, etc. Voilà, qui se réjouissent d'avoir éborgné des gens, d'avoir lancé des grenades dans les couilles, etc. Qui rigolent quand ils apprennent qu'il y a un blessé. Qui disent, ah voilà, il y en a un qui est tombé par terre, il ne s'est pas relevé, etc. Ces vidéos-là, c'était des pièces que l'IGGN avait à disposition. Donc, ils n'ont pas pu ignorer, c'était des pièces au dossier. Et malgré ça, ils allaient conclure sur un non-lieu. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que nous, depuis les soulèvements, et beaucoup BNM, le collectif qui lutte historiquement contre les bassines, on avait préparé cette séquence de longue date pour faire pression sur le procureur. Donc là, les blessés maintenant demandent une enquête judiciaire. Donc non pas une enquête menée par la police, mais par un juge d'instruction, c'est-à-dire une enquête indépendante. Mais là, jusque-là, Nunez a dit, je ne sais pas si vous avez vu, qu'a priori, il n'y avait pas forcément de réponse disproportionnée. Donc, a priori, il n'y aura pas d'ouverture d'instruction judiciaire, mais juste une enquête administrative à nouveau menée par l'IGGN qui a, pendant 2 ans et demi, protégé ces policiers, quoi. Donc là, en fait, la ligne des blessés, ils savent très bien qu'ils n'obtiendront pas justice. Leur ligne, c'est plutôt de continuer à mettre la pression pour avoir des réponses sur quelles armes ont été utilisées, avec quelle chaîne de commandement. C'est-à-dire, c'est pas des bavures policières, c'est pas des policiers en roue libre qui font n'importe quoi. C'est une chaîne de commandement avec en haut Gérald Darmanin qui est aujourd'hui ministre de la Justice. Quid des réponses sur l'obstruction des secours, puisque donc il y a eu vraiment. Il y a eu la LDH qui a documenté le fait que le SAMU a été empêché de venir. Donc il y a tout un tas de demandes de réponses sur ces faits précis-là. Et plus largement aussi, je pense que là, les blessés et les gens qui les accompagnent ont à cœur aussi de dire que, en fait, cette répression-là qui s'est abattue sur, en l'occurrence là, un mouvement écologiste, elle ne vient pas de nulle part. Qu'on sait d'où elle vient. La répression qui a ciblé les mouvements écolos dans les dernières années, ça a été la répression policière. On le voit très bien, et les camarades en parleront mieux que moi, les armes de la police, avant de s'abattre sur des mouvements écolos majoritairement blancs, elle a été expérimentée massivement dans les colonies françaises, dans les quartiers populaires français, sur les franges radicales du mouvement ouvrier, sur les corps non blancs, sur les personnes assignées musulmanes. L'autre forme de répression, c'est la répression administrative, avec notamment la dissolution qui a aussi touché les soulèvements de la terre. La dissolution qui a été permise par la loi séparatisme votée en 2021, qui ciblait d'abord les organisations musulmanes, qui a d'abord commencé par dissoudre des organisations musulmanes. Et il faut quand même le rappeler qu'il y a très peu mobilisé la gauche à l'époque. La gauche a commencé à s'intéresser à la loi séparatiste quand la loi séparatiste a commencé à les concerner, c'est-à-dire à dissoudre aussi, à menacer de dissolution avec le pacte républicain des organisations écologistes et sociales, plutôt de la gauche dite blanche. Donc c'est important de rappeler aussi cet héritage-là. Et la dernière forme de répression qui nous a aussi touchés, c'est l'antiterrorisme, notamment avec l'affaire Bouc Belair, donc cette usine Lafarge qui a été ciblée par un grandiose démantèlement collectif en 2022 et qui a été aussi saisie par la ZAD, la sous-direction antiterroriste. Donc, et rappeler aussi l'héritage colonial et raciste des dispositifs de l'antiterroriste. Et donc c'est ce que Césaire appelle le choc en retour de la colonisation, quoi. C'est-à-dire c'est des dispositifs de répression qui ont d'abord été utilisés dans les colonies, qui ont ensuite été expérimentés, réutilisés dans les quartiers populaires en France, sur les corps non blancs, et ensuite qui viennent toucher les mouvements qui paraissent moins offensifs aux yeux du gouvernement, donc les mouvements écolos, les mouvements féministes ou syndicaux. Et donc nous, on tient vraiment à, je pense, dans la séquence de répression, il y a eu beaucoup de une partie du mouvement s'est défendue légitimement et a dénoncé cette répression, ce qui est important bien sûr parce qu'on peut gagner des choses, il faut dénoncer la répression, mais on n'est pas, de volonté d'avoir un discours de victimisation. Voilà, rappeler les origines coloniales de cette répression, et puis aussi se rappeler que nous aussi on a des formes aussi d'offensivité. Voilà, en fait, on s'est constitué aussi en rapport de force. On a démantelé des bassines, on a mis hors d'arrêt des infrastructures. Et c'est aussi qu'on a commencé à devenir une sorte de menace, en tout cas pour les porteurs des projets que nous, on conteste. Et que voilà, cette violence, elle est aussi venue en réponse à la constitution d'une force. Cette répression, elle ne nous arrête pas. On continue. On fait aujourd'hui partie de Guerre à la guerre. On a plein de choses à dire aussi sur les manières de se prémunir de la répression. Donc nous, on fait beaucoup de formations, beaucoup d'accompagnement des collectifs pour se former, s'entreformer, constituer des legal teams partout sur les territoires. Voilà, être en mesure de répondre à nos besoins face à la répression. Et peut-être je laisse mes camarades...
Kinan pour Urgence Palestine. Urgence Palestine, c'est un collectif qui s'est créé au lendemain du 7 octobre en prévision des gros massacres qui allaient venir. Et c'est quelque chose qu'on a tout de suite mis en avant, à savoir l'armement français et la coopération européenne et de l'Occident dans le génocide en cours des Palestiniens. Et quand on creuse dans l'histoire, en réalité, on se rend compte que déjà de 1 et depuis 67, l'armement d'Israël pour la France n'est pas si important que ça économiquement. Sur l'année 2023, il me semble que c'est quelques dizaines de millions d'euros. Donc en termes de PIB, ce n'est pas un grand chiffre et pas un enjeu en tant que tel. Donc on s'est posé la question de pourquoi la France continuait d'armer et de s'impliquer autant dans un génocide et dans un colonialisme. Et en remontant le fil de l'histoire, on se rend compte que la France et Israël collaboraient déjà pendant la guerre d'Algérie, et pas forcément sur des questions d'armement, et pas vraiment sur l'armement, et que la question était plus profonde que ça. C'est tout ce qui va être sur l'apprentissage et le fonctionnement des méthodes contre-insurrectionnelles. Donc comment on réprime les peuples, comment on mate les soulèvements, comment on fait en sorte que le peuple reste docile et que le peuple continue d'obéir aux ordres qu'on lui donne. Donc toute une gestion coloniale. Et bon, la France a été un des premiers, a été en fait une école de ces méthodes contre-insurrectionnelles. Et avec le temps et la perte des colonies françaises, et la victoire plutôt des peuples colonisés contre le colonialisme, la France a besoin aussi d'avoir un retour sur expérience pour continuer cette répression et cette colonialisme de son propre peuple. Pourquoi ? Parce que quand on regarde par exemple sur les 3 dernières années et notamment ce qui se passe dans les quartiers populaires plus globalement depuis 20 ans, la France s'implique et demande de plus en plus à des pays colons, donc à Israël par exemple, des conseils sur comment réprimer les révoltes et les émeutes des quartiers populaires. Et l'exemple le plus marquant, c'est en 2023. Après l'assassinat de Naël, quand les quartiers se sont soulevés contre cela, la France a fait appel à la police israélienne pour savoir comment mater tous ces banlieusards qui se révoltent contre un ordre établi. Et ça montre une chose. Ça montre que la gestion de la France avec sa population reste coloniale. Et que, comme tu l'as dit, quand ça concerne les gens des quartiers, pour l'instant, on ne s'en inquiète pas trop. Mais c'est des premières mesures de test et d'entraînement et de validation des process. Il y a la loi séparatisme, il y a toutes ces choses-là. Donc, en fait, la loi séparatisme, la lutte contre le terrorisme, et toutes ces choses-là sont des méthodes coloniales de répression des peuples. Et c'est contre ces choses-là que nous, on veut se battre. Parce que quand on parle de lutte contre le terrorisme, on parle de lutte contre des résistances qui se font légitimement contre un colon. Quand on parle de lutte contre le terrorisme, on parle de résistance d'un peuple dans un peuple à pouvoir être digne, à savoir des gens issus des quartiers, des gens issus de l'immigration postcoloniale, des gens qui sont aujourd'hui victimes de racisme, d'islamophobie et toutes sortes de discriminations. Et c'est contre toutes ces choses-là qu'on essaye de se battre. Et le point commun entre toutes ces choses-là, c'est ce secteur que va être l'armement, la surveillance, le contrôle. Donc c'est pour ça qu'avec les camarades, on s'est dit que c'était un bon point d'approche que de lancer cette coalition guerre à la guerre et un bon point d'attaque de ne pas rester en défense et de faire que dénoncer, mais aussi d'aller appuyer là où ça fait mal et de mettre un point et de vraiment essayer d'arrêter toute cette industrie de la mort.
Les amis de Rowell, ce soir, sont avec la coalition Guerre à la guerre autour du salon Millipol, la grande messe des armes de guerre contre les peuples qui s'est déroulée la semaine dernière à Villepinte. On poursuit avec d'autres interventions. D'abord celle du collectif Stop Arming Israël France.
Bonsoir, moi je fais partie du collectif Stop Arming Israël France. Et si Urgence Palestine s'est fondée au lendemain du 7 octobre, on s'est un peu fondé au surlendemain, parce que notre collectif il s'est monté en réponse à un appel des syndicats palestiniens, des syndicats de travailleurs, qui a été lancé le 16 octobre 2023. Et ces syndicats de travailleurs en Palestine, ils avaient identifié quelque chose qui allait devenir une évidence pour nous, c'est qu'Israël ne peut pas commettre un génocide sans avoir d'appui militaire et de fourniture d'armes du reste du monde. Alors en particulier, effectivement, les principaux fournisseurs d'armes d'Israël, c'est les États-Unis, l'Allemagne, et après, dans une moindre mesure, d'autres pays d'Europe, comme l'Italie, l'Angleterre, mais aussi la France. Et comme Kenan l'a dit, effectivement, on parle de... en moyenne 20 millions d'euros de matériel strictement militaire qui est livré à Israël chaque année, ce qui est presque anecdotique en fait à l'échelle des ventes d'armes de la France, parce qu'il ne faut pas oublier que la France est le deuxième vendeur d'armes au monde en global et qu'on vend des milliards d'euros de matériel militaire à plein d'autres pays, dont pas mal de pays qui sont là, qui viennent là faire leur shopping, notamment à Millipol, et dont on reparlera peut-être, qui ont plein d'autres défauts, tout comme Israël. Mais effectivement, on vend quand même du matériel militaire à Israël, contrairement à ce que on n'arrête pas de nous répéter côté gouvernement depuis 2 ans. Même si la France n'est pas un fournisseur majeur d'Israël, la France et ses entreprises fournissent à Israël des composants qui peuvent être essentiels au fonctionnement de certaines armes qui sont utilisées en Palestine. Par exemple, des entreprises comme Thales qui fournissent des composants de drones qui sont pas, ils fournissent pas le drone entier, mais sans certains de ces composants comme des radars, le drone il peut tout simplement pas voler ni bombarder, par exemple à Gaza. Et ces entreprises comme Thales, bah, on l'a dit, c'est des entreprises qui, d'autre part, ont vraiment pignon sur rue dans le marché global de la guerre, mais aussi de la répression. Et comme ça a été rappelé, Millipol, c'est un salon qui est, entre autres, possédé par l'entreprise Thales, quoi. C'est vraiment un des propriétaires de la marque Millipol. Donc Thales, c'est une de ces entreprises qui se présente comme une entreprise de haute technologie, de sécurité. Ils ont des slogans de type... protégeons notre futur, pour un futur plus sûr tous ensemble, etc. Et en fait, bon, voilà, on parle d'entreprises qui fabriquent concrètement des armes, que ce soit sur toute l'échelle, en fait, sur tout le continuum de la violence qui est exercée par les États, que ce soit donc, vraiment la guerre à proprement parler, mais aussi la violence répressive, la violence des forces de l'ordre, mais aussi le contrôle de la population et jusque sur les routes de migration, le contrôle des exilés, le contrôle des frontières. Donc ce salon Millipol, il est assez exemplaire de ça, de vraiment, on y retrouve des entreprises qui vont du char blindé à des IA de reconnaissance faciale. C'est vraiment... c'est quelque chose qui est très caractéristique dans ce salon, quoi. C'est vraiment un salon qui est exemplaire de ce continuum dont on parle beaucoup dans Guerre à la guerre, qui va effectivement des camps de concentration, des frontières, des prisons, jusqu'au champ de bataille à proprement parler. Pour nous, Stop Arming Israël, en tant que collectif, c'est lutter contre ces salons d'armement. Donc ça a du sens parce que, bien sûr, les entreprises françaises qui commercent avec Israël, qu'on connaît bien, y participent, voire en sont actionnaires. Mais d'autre part, Israël, il vient aussi à la fois pour exposer et pour acheter. Il faut savoir qu'Israël, c'est un pays qui a vraiment développé bien sa propre industrie d'armement. Ce qui est assez facile quand on est un pays qui a un peuple à sa disposition sur lequel ils vont en permanence mener des offensives et mener des pseudo-guerres sur des territoires au final presque sans défense. Ça va être assez facile pour Israël d'avoir une industrie d'armement performante. Et puis c'est aussi assez nécessaire parce que c'est un pays qui s'est mis dans une situation de soi-disant devoir se défendre en permanence, donc d'avoir une guerre permanente. Et il n'y a rien de mieux que la guerre permanente pour développer des armes en permanence. Israël est très performant sur le marché mondial de l'armement. C'est le 9e exportateur d'armes au monde et qui vend à toutes sortes de pays, dont des pays européens. Et Israël, en plus, est du coup devenu vraiment très spécifiquement très doué pour tout ce qui est contrôle de population, répression, etc. Parce que Israël, c'est un pays, c'est une situation quasi carcérale permanente, en fait. L'infrastructure de l'apartheid, des checkpoints, etc., ça donne aussi des compétences particulières. Et là, récemment, on a bien vu à quel point l'intelligence artificielle, à des fins militaires et de contrôle, par exemple, a été fortement développée. Donc, à ce salon Millipol, tous les ans, il y a de plus en plus d'entreprises israéliennes. Et là, en 2025, il y a donc 38 exposants israéliens qui ont été annoncés. Et malgré le fait que Israël, la participation d'Israël à des salons d'armement a été remise en cause, voire a été jusqu'à annulée grâce aux actions diverses de certains de collectifs ici présents notamment, malgré que le gouvernement ait été contraint de remettre en question la participation d'Israël à des salons d'armement jusqu'à présent, ce mois-ci, à Millipol, ils ont décidé, Macron a annoncé il y a quelques jours, que en fait c'est bon, là on est dans une bonne phase là avec Israël, on est en train de se rabibocher, en fait ça se passe bien là, il y a un cessez-le-feu soi-disant, etc. Et donc pour fluidifier les relations, n'est-ce pas, ils ont décidé de permettre à tous ces exposants israéliens de venir présenter leur technologie de maintien de l'ordre, de contrôle et de destruction. Donc on a 38 exposants israéliens, parmi lesquels il y a le premier vendeur d'armes israélien qui fabrique 85% des drones et des équipements terrestres qui sont utilisés par l'armée israélienne à Gaza. Ça s'appelle Elbit Systems, qui est aussi dans le top 100 des vendeurs d'armes mondiaux. Mais après, on a aussi plein d'entreprises moins connues, mais qui font effectivement de l'intelligence artificielle, qui fait de la reconnaissance faciale, utilisée par l'armée israélienne à Gaza pour identifier des cibles. On a des entreprises qui font des logiciels pirates, qui rentrent dans n'importe quel appareil connecté pour utiliser les caméras et potentiellement ont la capacité de déformer les images pour les faire mentir, pour pouvoir raconter des histoires et construire des scénarios pour pouvoir, encore une fois, cibler des gens. Donc on a tous ces ensembles de logiciels. Enfin, Israël est vraiment devenu très spécialiste aussi de commercialiser ça auprès des États pour vraiment pouvoir tous mieux nous contrôler après avoir bien utilisé ça en premier lieu sur la cible principale qui est bien sûr le peuple palestinien. Donc voilà, ces entreprises israéliennes, elles viennent exposer en France pour se montrer, pour trouver des clients. Et bien sûr, Israël vient aussi faire son marché potentiellement auprès d'entreprises françaises qui font commerce avec lui. Donc pour nous, voilà, ce salon Millipol, il est une cible forcément importante pour dénoncer le commerce d'armement avec Israël dans son ensemble, parce qu'on parle beaucoup des livraisons directes d'armement à Israël, mais il faut savoir que le commerce d'armement, c'est des échanges bilatéraux permanents. Enfin, ces entreprises, elles sont à la fois concurrentes, clientes et partenaires. Et on doit toujours le prendre dans son ensemble. Et la participation au salon d'armement, ça fait clairement partie de ce commerce. Et on pense qu'il est possible de se lier avec les personnes qui connaissent le mieux ce secteur, qui sont notamment les gens qui travaillent dedans. Parce que aussi dans les entreprises d'armement, il existe des syndicats, il existe des personnes qui sont capables de s'opposer à ce qui s'y passe. C'est important de rappeler que toutes les personnes qui travaillent dans une industrie n'ont pas les mêmes intérêts que leur patron. C'est des fois un peu un béaba de la lutte des classes qu'il faut se rappeler. On n'a pas les mêmes intérêts que nos patrons. Et je pense qu'on reproche assez peu aux serveurs de chez McDo les crimes de McDonald's. Mais il y a des ouvriers dans les entreprises d'armement qui peuvent vouloir s'opposer au commerce d'armement avec Israël et qui peuvent aussi nous aider éventuellement à lutter contre leur patron. Et comme c'est un appel des syndicats palestiniens auquel on répond, on s'adresse aussi aux organisations syndicales. Mais au-delà des personnes qui travaillent elles-mêmes dans ces entreprises, nous on pense aussi que c'est important que chacun d'entre nous s'intéresse à ce que font ces entreprises, que chacun d'entre nous sache que ces entreprises existent, qu'elles sont partout autour de nous. On fait pas mal de travail de recherche et de vulgarisation parce que c'est important de savoir qu'il y a des centaines et des centaines de sites de production et de bureaux d'armement partout autour de chez nous et que ces entreprises, elles sont souvent assez... on passe devant, on voit pas forcément, on sait pas forcément de quoi il s'agit et qu'on a tous intérêt à le savoir et que l'image, c'est assez important pour ces entreprises. Elles n'ont pas intérêt à ce que les gens sachent ce qu'elles font. Elles n'ont pas intérêt à ce que les gens sachent où elles sont. Elles n'ont pas intérêt à ce qu'on parle d'elles. C'est important d'être de faire rentrer dans l'espace public le fait que ces entreprises existent. Et que ce qu'elles font, c'est vraiment de l'armement, c'est vraiment pour tuer les gens, c'est pas de la défense, c'est pas de la protection. Et ne serait-ce que déconstruire cette propagande-là, ça fait partie du travail extrêmement important qu'on a à mener actuellement, surtout dans une période où la militarisation s'accélère, que ce soit la militarisation de la police, la militarisation de nos existences et l'augmentation des budgets militaires. Donc voilà, nous on appelle vraiment tout un chacun à prendre connaissance de l'existence de ces entreprises, à en parler et à venir à tous les rassemblements, toutes les mobilisations qui peuvent exister contre le commerce des armes, à commencer par venir demain devant Millipol, parce que en fait si on est, disons la dernière édition de Millipol 2023, vous nous avez vu dans le film avec notre petite banderole Stop Arming Israël, vous avez vu qu'on n'était pas très nombreux. Ce serait bien qu'à la prochaine, c'est-à-dire demain, on soit un peu plus nombreux et que la suivante, on soit encore plus nombreux. Et jusqu'au moment où on sera en capacité à vraiment renverser aussi ce qui s'y passe et vraiment perturber, empêcher ce qui se passe dans ce salon.
Justement, voilà quelques séquences sonores du rassemblement qui a eu lieu devant Millipol à Villepinte le 19 novembre. Beaucoup de monde a pu se rassembler avec banderoles et mégaphones devant le hall 5 du Parc des Expos.
Un entretien.
Les gars, on s'aligne, attention. Les gars, vous allez vite. Les gars, on s'aligne à gauche.
On est en train d'être expulsé du salon Millipol, le salon de l'armement. On est bousculé, on est empêché de manifester de manière pacifique. Le gouvernement n'a pas interdit ces entreprises. Il aurait dû, comme le demande la Cour internationale de justice, qui demande à tous les États de prévenir le risque plausible de génocide. Il n'est pas trop tard, exiger, faire en sorte que ces entreprises ne soient plus présentes, faire en sorte de prendre toutes les mesures pour le respect du droit international, de sanctionner le régime génocidaire israélien. C'est pourquoi on continue à se mobiliser en tant que campagne boycott des investissements et sanctions contre le régime génocidaire d'Israël.
Tous les exposants israéliens qui sont là aujourd'hui, ils sont soit des fournisseurs, des forces armées israéliennes, soit des fournisseurs des forces de police israéliennes. On sait qu'il y a une entreprise qui a fourni en quelques mois plus de 25 000 armes à feu à l'armée israélienne en 2023. On sait qu'il y a Elbit Systems qui est un des principaux vendeurs d'armes israéliens. On sait qu'il y a des entreprises comme Corsight AI qui font de l'intelligence artificielle, de reconnaissance faciale pour cibler les Palestiniens. Donc pour moi, c'est pas une surprise, mais ça me semble totalement inadmissible dans un état de droit que des entreprises qui puissent se vanter de ça exposent sur le sol français. Mais apparemment, c'est normal pour un pays impérialiste comme la France, arrêter de tenir ce type de salon, d'utiliser des millions d'euros d'argent public et d'organiser ça avec une société privée qui est un partenariat public-privé avec des entreprises d'armement pour organiser ce type de salon. S'il vous plaît, quoi, arrêtez de vous foutre de notre gueule, en fait, on a un peu envie de dire au gouvernement, parce qu'on sait très bien qu'ils ne vont pas nous écouter si on leur fait des demandes, mais nous, on n'attend rien de ce gouvernement, mais on veut de l'argent pour la santé, pour l'éducation, pour la culture, pas pour l'armement, pas pour la guerre et pas pour la police.
Ces derniers jours, on a retrouvé des armes françaises dans les guerres au Soudan et dans les régions de Darfour, alors qu'il y a des résolutions des Nations Unies qui a interdit les livraisons des armes en fait dans cette région depuis 2003. La France a continué quand même à autoriser ces armes en fait, voilà, pour qu'elles soient délivrées au Soudan. Et deuxième chose, dénoncer en fait, voilà, ces collaborations militaire entre la France et les Émirats Arabes Unis qui va utiliser les armes pour tuer les civils au Soudan. C'est étonnant quand même qu'on soit coincé ici. Là, on est en France, je pense que le fait de manifester, c'est le minimum de droits en fait, voilà, qu'on dispose en tant que citoyen dans ce pays. Mais ça explique très bien en fait, voilà, la complicité de France et ses soutiens en fait, voilà, envers de tous ces complices, que ce soit les Émirats, que ce soit les Israéliens. Je pense que la manière dont on est accueilli est très en fait, voilà, cohérent avec les lignes en fait, voilà, politiques.
Voilà, la coalition Guerre à la guerre, je le rappelle, qui regroupe une trentaine d'organisations autonomes mobilisées en juin dernier pour faire front contre le Salon du Bourget, organisée la semaine dernière, le 18 novembre au CICP, une soirée d'infos sur ce funeste salon qui expose donc ses engins de mort tous les deux ans aux portes de Paris. Le film de Mathieu Régouste en parle très bien, nous sommes des champs de bataille. À voir donc, je le rappelle, et à soutenir sur le site internet du même nom. Voilà, donc on a entendu Mathieu Régouste, on a entendu Les Soulèvements de la Terre, Urgence Palestine, Stop Arming Israël, et enfin, deux dernières interventions à présent, celle de Survie et un point sur les actions en justice engagées tout récemment avec le collectif Droits et Mouvements Sociaux, également membre de la coalition.
Moi, je m'appelle Camille et je parle au nom de l'association Survie, donc qui fait partie de la coalition Guerre à la guerre. Survie, c'est une association qui a été créée en 1984 et qui milite contre le néocolonialisme français en Afrique sous toutes ses formes et aussi autour de situations toujours coloniales comme en Kanaky et dans les territoires qu'on appelle les Outre-mer. Et en fait, on est l'association qui a popularisé le terme de France-Afrique justement pour dénoncer cette domination et cette asymétrie que la France parvient à maintenir dans ces anciennes colonies. Et c'est vrai qu'en fait, quand on pense au néocolonialisme français en Afrique, on va penser aux liens culturels ou mémoriels ou même économiques qui relient donc la France avec ses anciennes colonies. Et il y a tout un pan qui est alors soit invisibilisé, soit considéré comme naturel, toléré vraiment et naturalisé. C'est l'aspect militaire. Et je trouve que c'est, enfin, vraiment merci à Mathieu d'avoir intégré cette dimension-là dans son film, parce que le public français n'est pas au courant des politiques militaires qui sont menées en son nom à l'extérieur du territoire. Et c'est vrai qu'en France, on commence à flipper depuis la guerre en Ukraine, d'un retour de la guerre depuis 1945. Mais en fait, depuis les années 60, les indépendances juridiques en Afrique, la France, c'est plus d'une cinquantaine d'interventions militaires. Et en fait, le film illustre bien à quoi servent justement toutes ces interventions. Donc déjà, il y a le fait que la France considère ses anciennes colonies comme un terrain de jeu, d'expérimentation, dans lesquelles elle peut intervenir à sa guise, et en faisant l'économie aussi de tout contrôle parlementaire. Donc il y a vraiment cette idée, voilà, qu'on peut aller tester des grenades en Kanaky, qui vont donc ensuite être réimportées et réutilisées ici pour mater les manifestations. Il y a cette idée aussi que c'est une façon de mettre en vitrine justement ces nouvelles technologies et de booster aussi la performance de nos poulains, parce qu'on est super fiers de notre savoir-faire sécuritaire en France. Et du coup, ouais, pour abonder dans le sens du boomerang impérial que mes camarades décrivaient, cet aller-retour entre les colonies et les périphéries, enfin les centres impérialistes. Moi, j'aime bien prendre l'exemple d'un moment qui n'était pas très agréable dans nos vies, mais le quinquennat de François Hollande, parce que du coup, François Hollande, c'est quoi ? C'est le déclenchement de l'opération Serval qui est devenue Barkhane. Donc, ça a été 10 ans de guerre contre le terrorisme au Sahel, avec des effets aussi dévastateurs que les ingérences militaires américaines au Moyen-Orient et aussi dévastateurs aussi que l'intervention en Libye. Sauf qu'il n'y a eu aucun bilan qui a été fait sur cette intervention-là, qui est aussi la plus grande intervention française depuis la guerre d'Algérie. Donc c'est assez fou qu'on soit incapable de faire un bilan honnête sur nos ingérences et sur nos interventions impérialistes au Sahel. Et François Hollande, du coup, c'est aussi l'état d'urgence qui a été imposé sur le territoire français et qui a été aussi une opportunité pour cibler les populations musulmanes, mais aussi pour réprimer, je crois que c'était la COP 21 à ce moment-là. Donc on voit comment l'État français joue sur ces deux tableaux et comment ces deux tableaux-là s'alimentent aussi. Et donc, au moment où François Hollande déclenche l'intervention militaire au Sahel, on a du mal à vendre nos petits rafales de notre chère entreprise d'assaut. Et une fois, comme ça a été dit dans le film, qu'on les a testés, qu'on a démontré leur capacité à donner la mort sur le terrain sahélien, on a pu mettre l'étiquette « éprouvée au combat » dessus. Et notre régime ami égyptien nous a ensuite passé commande de ces chers rafales. Donc on voit qu'en fait, les déploiements militaires, mais aussi policiers, comme ça a été le cas en Kanaky l'année dernière, ils ont la même fonction que ce salon Millipol, à savoir mettre en vitrine, promouvoir, vendre et accumuler du profit. Et du coup, donc aussi, ce qui fait que la France est la septième puissance mondiale, c'est aussi parce que les ventes d'armes est centrale du coup dans ce maintien de puissance de la France. Mais il y a aussi un pan qu'on oublie souvent, c'est la coopération militaire et policière avec des régimes qui répriment dans le sang. Et du coup, donc, la France est un peu une spécialiste dans le fait de former. Donc il y a énormément de formations qu'on apporte aux appareils répressifs de ces régimes-là. Mais aussi, on fournit du matériel de maintien de l'ordre. Les LBD qui ont éborgné nos camarades gilets jaunes, c'est ceux qu'on envoie depuis des années sur ces terrains-là. Et du coup, avec une émotion à géométrie variable, comme ça a été évoqué. Et ce qui est assez terrifiant là-dessus, c'est que donc, tous les ans, il y a un rapport sur les ventes d'armes qui est remis au Parlement français. Donc déjà, il y a plein d'impostures et de manipulations qui permettent de jouer sur les chiffres, donc les fameux biens à double usage qui sont à la fois militaires et civils, mais aussi du coup le fait que cette coopération militaire et policière, il n'y a pas le détail en fait des grenades lacrymogènes, des LBD qu'on envoie au Cameroun en ce moment. Il y a des manifestations qui sont réprimées dans le sang. Au Togo, c'est la même chose. Et il n'y a aucun suivi, aucun tracé. Et il y a aussi parfois des manipulations qui font passer le prêt de matériel de maintien de l'ordre dans de l'aide au développement. Donc on voit aussi le cynisme, à quel point c'est assez aberrant. Et aussi le matériel utilisé notamment par Frontex ou alors pour la gestion migratoire va aussi parfois être passé dans l'aide au développement. Et je crois que le budget des CRA aussi est intégré parfois dans les budgets de l'aide au développement. Donc c'est assez terrifiant. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se demande mais comment ça se fait que les dirigeants, les élites politiques, économiques, militaires du pays des droits de l'homme se rendent complices d'un génocide. Et en fait, quand on regarde les relations entre la France et les pays africains, on comprend tout de suite, en fait, parce que la complicité de violation des droits humains est moins importante que la préservation de nos intérêts. Donc, en fait, on a une longue tradition. Et la complicité de génocide, c'est que le paroxysme des intérêts français first. Vraiment, si vous arrivez à comprendre que la Palestine, c'est un cas d'école de tout ce qu'on combat en termes d'impérialisme, de racisme, de colonialisme, etc., vous devez aussi comprendre que la France-Afrique et le lien que la France maintient dans ses anciennes colonies, c'est exactement les mêmes mécanismes. C'est pour ça qu'on retrouve aussi des composants français sur les blindés utilisés par les forces de soutien rapide au Soudan. C'est pas des exceptions, c'est pas des anomalies, c'est la continuité de la politique extérieure française dans les pays anciennement colonisés. Et du coup, donc, c'est vrai que Survie, on est une vieille asso, on a un peu un profil plus légaliste. Voilà, on fait beaucoup d'actions en justice, on fait beaucoup de recherches, d'ouverture des archives. Et le fait de rejoindre cette coalition, c'est aussi le signe qu'il se passe quelque chose, qu'il y a une accélération et qu'on est obligé de trouver des nouveaux moyens de militer, de s'organiser. Et le fait de créer un front unitaire aussi large, avec des modalités d'action aussi différentes, c'est aussi cette idée que c'est la combinaison de cette pression qu'on va pouvoir mettre à la fois dans la rue, mais aussi au niveau des institutions, qui va pouvoir produire quelque chose. Et à ce titre-là, donc, à Survie, on fait partie des organisations qui ont porté une action en justice aussi en parallèle de la mobilisation contre le Salon du Bourget. Donc nous, en fait, on est investi dans beaucoup de dossiers judiciaires pour faire reconnaître la complicité de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Donc c'est vrai que c'est pas facile et l'État français nous met beaucoup de bâtons dans les roues. En fait, le droit français n'a pas été designé pour pouvoir traduire des États en justice sur cette question de la complicité de génocide. Donc en gros, demain, si vous commettez un vol, la justice, voilà, elle peut totalement traiter ce dossier-là. Mais quand on essaie de faire reconnaître la complicité des États ou des dirigeants dans ce genre de crime, qui est quand même le pire crime reconnu dans notre juridiction, on nous rétorque que la politique extérieure, c'est un peu la chasse gardée de l'exécutif et qu'on n'est pas que la justice ne peut rien faire, quoi. Et du coup, donc là, pour Millipol, on a lancé une autre action en justice, et je vais laisser ma camarade peut-être en parler mieux que moi.
Bonsoir. Moi, je parle pour l'asso Allumeuse, avec un S.BZZ, qui fait partie de la coalition Guerre à la Guerre. On accompagne les collectifs en lutte avec l'art, avec l'éduc-pop, le soin pour sortir de l'épuisement, et pour renforcer nos luttes, et aussi le droit. Et là, ce qu'on a fait avec la coalition et depuis Eurosatori avec certains collectifs que je vais nommer quand même, parce que du coup, il y a Survie, mais il y a aussi en asso plaignante Stop Fueling War, il y a Al-Haq, Les Amis de la Terre, l'UJFP, AJPO, et peut-être que j'en oublie. Mais en tout cas, c'est des assos plaignantes courageuses qui, du coup, au sein d'une coalition qu'on a montée qui s'appelle Droits et Mouvements Sociaux, qui donne accès à la stratégie juridique à tous les collectifs qui en ont besoin, ont du coup été plaignantes dans différentes actions en justice, depuis Eurosatori jusque du coup Millipol. Ces actions en justice, elles ont été faites aussi grâce aux recherches de collectifs qui ne sont pas plaignantes dans ces actions, mais comme Urgence Palestine et bien sûr les super recherches de Stop Arming Israël France, qui ont énormément servi. Et pourquoi je dis ça aussi ? Parce que, en fait, c'est des gens aussi qui font des recherches qui ne sont pas forcément juristes. Et c'était très joyeux aussi pour nous, juristes, d'écrire ces plaintes, ces actions en justice contre ces salons de l'armement, avec plein de personnes qui n'avaient jamais monté d'actions en justice et qui ont aussi participé à ces recherches et ont d'ailleurs aimé apparemment aussi faire ces recherches. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait avec Eurosatori ? On a, en fait, le gouvernement avait dit qu'il interdirait les entreprises israéliennes, mais c'est très important de comprendre que les délégations israéliennes pouvaient continuer de venir, comme au Bourget. En fait, on a été sur place sur le salon du Bourget et on a pu rentrer carrément dans un stand d'exposition et filmer dans un stand d'exposition du ministère de la Défense israélienne, alors qu'ils étaient censés être fermés, ces stands. Et en fait, ils ont continué à travers des délégations israéliennes à faire leur business et à passer leur contrat sur place. Donc Eurosatori, on a du coup attaqué l'organisateur du salon et on a obtenu une décision en justice qui demandait à toutes les délégations, toutes les entreprises israéliennes d'être interdites. Mais on a perdu ensuite en cours d'appel. Mais en même temps, c'est aussi grâce à cette action en justice et grâce aux actions de phoning pendant des mois et des mobilisations dans la rue de Stop Arming Israël, Urgence Palestine et d'autres, qu'il y a quand même une première pression qui a été mise sur les salons de l'armement et l'État. Et en fait, les médias vous font croire que juste, le gouvernement s'est dit « Ah bah tiens, c'est vrai que pour respecter le droit, ce serait bien d'interdire les entreprises au salon. » Mais en fait, nous, on veut vraiment rétablir le narratif qu'à chaque fois qu'il y a eu aussi des mesures qui ont été prises, c'est grâce à la complémentarité, justement, des mobilisations. En tout cas, nous, c'est ce qu'on croit. C'est grâce à la complémentarité des actions, des mobilisations dans la rue, des actions de phoning dans les médias et aussi aux actions en justice. Et donc, pourquoi on utilise le droit ? alors que c'est fait par les dominants impérialistes, un peu comme la démarche de Mathieu, c'est de faire en sorte que justement le droit ne soit pas laissé seulement aux dominants et que des personnes militantes s'en emparent pour le changer justement. On s'en sert aussi, pas seulement pour changer le droit, mais pour justement que les médias relaient nos messages politiques. On a fait justement une mise en demeure, c'était même pas une action en justice, vous savez une mise en demeure ce que c'est un courrier qui dit à l'État et au salon Millipol, en fait, vous faites de la merde, vous êtes complices du génocide et des crimes au Soudan. Et vous accueillez des délégations, et pas seulement des entreprises israéliennes, et ça c'est super important, dans tous les salons, on rappelle vraiment que les entreprises d'autres nationalités continuent de livrer à Israël, comme l'a dit la camarade, et que ça aussi c'est de la complicité. Et donc on se sert en fait de ces actions en justice, et même d'une simple mise en demeure, pour que les médias mainstream relaient nos messages et montrent justement que quand le budget de l'armement explose, c'est évidemment toutes les victimes des conflits armés dans les, on l'a dit, les guerres coloniales, mais aussi de la répression. Et c'est aussi nos budgets de services publics qui sont jour après jour dégradés. Et juste accessoirement, quand même, on a des victoires sur le droit et on espère en avoir sur le Bourget. Donc on va aller jusqu'à la Cour de cassation. On est allé d'abord en référé, donc une procédure d'urgence. Là, on est sur le fond. On dit en gros que les contrats sont illicites parce qu'ils violent le droit sur la complicité de crimes contre l'humanité. Juste là-dessus, je fais un petit parallèle. C'est que, en fait, ce qu'on rabâche, c'est qu'à partir du moment où on accueille des entreprises ou même on fait la promotion de ces entreprises, en fait, on renforce le pouvoir économique de ces entreprises. Et grâce à la jurisprudence Lafarge qui a été mise en examen pour complicité de crimes contre l'humanité, c'est une plainte qu'on a écrite avec deux autres femmes en 2016, qu'on a déposée quand j'étais responsable à Sherpa. D'ailleurs, le procès est en cours, là, il vient d'ouvrir. Mais cette jurisprudence, en fait, elle dit que, en fait, on est complice à partir du moment où on a connaissance de participer à un crime. Et ça, c'est très important qu'on puisse s'en saisir, nous, dans les luttes, pour justement attaquer en justice, ou déjà menacé d'attaquer tous les complices du génocide, acteurs privés, États, pour justement se servir des outils des dominants contre eux et essayer de au moins un petit peu faire reculer l'impunité.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Tous les rendez-vous, les actions en cours de la coalition, c'est sur guerrealaguerre.net et sur leurs réseaux sociaux. Retrouvez nos archives sur le site de Souriez, vous êtes filmé, souriez.info, souriez.ez.info. Voilà, bonne fin de soirée sur Radio Libertaire. On se retrouve dans deux semaines, même heure, même antenne.